il est possible, en vérité, de commencer seulement avec la connaissance des émotions tournées vers Dieu. Quelle est cette connaissance, tu sais? Quelle est cette connaissance?
Non, n'est-ce pas, il y a trois chemins du yoga principaux. Le chemin de la connaissance, le chemin de l'amour et le chemin des œuvres. Alors, il dit que ça dépend des cas et des gens. Il y en a qui ont plus facilement le chemin de la connaissance, d'autres qui suivent plus facilement le chemin de l'amour, de la dévotion, et d'autres qui suivent le chemin des œuvres. Il dit que pour le yoga intégral, il faut avoir les trois combinés, quelque chose de plus. Mais que tout le monde ne peut pas faire le tout à la fois, et qu'il y a des gens qui ont besoin d'être exclusifs et de choisir l'un des trois chemins d'abord, pour arriver à les combiner tous plus tard. C'est le chemin de la connaissance, c'est le chemin très connu, n'est-ce pas, du Raja Yoga, où on se détache de son être physique en disant je ne suis pas le corps, et puis après on se détache de ses sensations, je ne suis pas mes sensations, puis on se détache de ses sentiments en se disant je ne suis pas mes sentiments, et ainsi de suite. On se détache de la pensée et on va de plus en plus intérieurement jusqu'à ce qu'on ait trouvé quelque chose qui soit l'éternel, l'infini. C'est un chemin de méditation et qui est vraiment le chemin de la connaissance de soi, regardé au point de vue de la réalité divine. C'est le chemin de la méditation, de la concentration, du retrait hors de la vie et de l'action. C'était celui-là qu'on pratiquait le plus dans les anciens yogas. Ou bien alors, le chemin de la dévotion et de l'amour, comme Chaitanya, et alors lui veut parler, ce livre-là, c'est consacré au yoga des œuvres, de l'action. C'est-à-dire trouver l'union avec le divin dans l'action et dans le travail et dans la consécration de son travail au divin.
Sans cela, quoi qu'il puisse trouver Dieu dans une autre vie, ils ne seront pas capables de réaliser le divin dans la vie. Pourquoi c'est devant Dieu et divin? Dieu et divin. Une fois,
non, c'est Je ne pense pas qu'il les oppose. Ce sont seulement des façons de parler. Il ne les oppose pas.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire, doucement?
Qu'est-ce que ça veut dire?
Oui.
Ça veut dire qu'ils sortent de l'existence pour trouver le divin, pour trouver Dieu. Un Dieu qui est hors de la vie, et ils sortent même de la vie pour le trouver. Tandis que dans le yoga intégral, c'est dans la vie qu'il faut trouver le divin. Pas hors de la vie. Ceux, par exemple, qui considèrent que la vie et le monde, c'est une illusion et qu'il faut en sortir pour pouvoir trouver le divin dont la nature est opposée à celle de l'existence. Alors il dit, n'est-ce pas? Ils trouveront peut-être Dieu, un Dieu, dans, hors de la vie, mais ils ne trouveront pas le divin dans la vie. Il oppose les deux choses. Mais cela, c'est dans un cas, c'est un divin extraterrestre, et non manifesté, dans l'autre cas, c'est le divin qui est manifesté dans la vie. Et qu'on peut retrouver à travers la vie. Qu'est-ce que c'est? C'est tout.
Lorsque on s'identifie avec le divin dans la partie supérieure, en négligeant les parties inférieures, négligeant la vie, est-ce que dans la partie où on est identifié avec le divin ne pensait pas à s'occuper des parties inférieures?
Et si, avant même de commencer, on a décidé que ça ne devait pas être, peut-être qu'on se met dans l'impossibilité de recevoir la vie de Dieu. Parce que à vrai dire, on ne rencontre, chacun ne rencontre du divin que ce qu'il veut en rencontrer. Sri Aurobindo l'a dit, en tournant la chose de l'autre côté. Il a dit, je ne cite pas les mots exacts, c'est seulement l'idée. Il a dit, ce que vous attendez du divin, c'est cela que vous trouvez dans le divin. « ce que vous voulez du divin. C'est cela que vous rencontrez. Il aura pour vous l'aspect auquel vous vous attendez ou que vous désirez. Et sa manifestation est toujours adaptée à la réceptivité, à la capacité de chacun. Ils peuvent avoir un contact véritable, essentiel, mais ce contact est limité par leur propre capacité de réception et d'approche. C'est seulement si vous êtes capable de sortir de toute limite que vous pouvez rencontrer le divin total, tel qu'il est totalement. Et peut-être cette capacité de rencontre, c'est peut-être ça qui constitue la vraie hiérarchie des êtres. Parce que chacun porte en lui-même le divin et par conséquent, chacun a la possibilité de s'unir au divin. Là, cette possibilité-là est identique en tous. Mais, suivant la capacité de chacun, au fond, suivant sa position dans la hiérarchie divine, son approche sera plus ou moins partielle ou totale. On pourrait dire, quoi que ce soit des mots qui déforment beaucoup, mais on pourrait dire que la qualité de l'approche est identique en tout être, mais la quantité, la totalité est très différente. Si on peut, c'est très difficile d'expliquer avec des mots, mais si on peut dire le point sur lequel vous vous identifiez au divin est parfait en lui-même, c'est-à-dire que votre identification est une identification parfaite en elle-même. Mais la quantité de points sur lesquels vous vous identifiez diffère immensément. Et c'est très marqué dans la différence des chemins suivis pour approcher le divin. Généralement, les gens se limitent. Ils se limitent en excluant tout ce qui n'est pas exactement le sentier qu'ils ont choisi, parce que c'est beaucoup plus commode et on va beaucoup plus vite, relativement. Mais si au lieu de suivre un chemin, vous marchez par une sorte d'avance que l'on pourrait appeler sphérique, où tout est compris, où toutes les possibilités d'approche du divin sont comprises. Naturellement, le résultat est beaucoup plus total, et c'est cela que Sri Aurobindo appelle le yoga intégral. Mais l'avance est beaucoup plus difficile et beaucoup plus lente. Celui qui choisit le chemin de la connaissance, et encore dans ce chemin de la connaissance, un procédé spécial, parce que chacun a son procédé, et qu'il suit ça en éliminant de sa conscience et de sa vie tout ce qui n'est pas ça, il avance d'une façon beaucoup plus rapide. Parce qu'il n'y a qu'un aspect de sa recherche qu'il poursuit. Et c'est beaucoup plus direct, immédiat. Et alors il rejette tout ce qui n'est pas ça. Et il réduit son être juste au chemin qu'il parcourt. Et plus vous voulez que votre approche soit intégrale, plus naturellement ça devient difficile, compliqué, long, laborieux. Mais celui qui suit seulement un chemin, au moment où il arrive à son but, c'est-à-dire qu'il s'identifie au divin, son identification en elle-même est parfaite, c'est-à-dire que c'est vraiment une identification avec le divin. Mais elle est partielle. Elle est parfaite et partielle en même temps. C'est très difficile à expliquer, mais c'est un fait. Il est vraiment identifié au divin. Il a trouvé le divin. Il s'est identifié au divin, mais c'est sur un point. Et alors, celui qui est capable de s'identifier au divin dans sa totalité est forcément, au point de vue de la réalisation universelle, il est forcément sur un plan hiérarchique beaucoup plus élevé que celui qui n'a pu le réaliser que sur un seul point. Et c'est ça le vrai sens de la hiérarchie spirituelle. C'est pour ça qu'il y a toute une organisation hiérarchique spirituelle, autrement ça n'aurait pas de fondement, puisque la minute où vous touchez le divin parfaitement. Le point sur lequel vous le touchez est un point parfait, en lui-même. Et à ce point de vue-là, tous ceux qui se sont unis au divin sont aussi parfaits dans leur union, mais pas aussi complet, si je peux dire. Tu saisis un peu ce que je veux dire?
ce que je voulais demander, Mère, c'est que dans la partie où ils sont identifiés, après avoir été identifiés avec le divin, est-ce qu'ils ne s'aperçoivent pas que cette identification n'est pas complète? C'est-à-dire qu'ils ont laissé d'autres parties de leur être qu'on doit recommencer encore?
Ça peut arriver. Mais généralement, ils ont si parfaitement éliminé de tout ce qui n'était pas ça, qu'il ne reste rien pour s'apercevoir que l'identification n'est pas parfaite. Ils ont l'expérience de l'identification et ils sont perdus dans le divin et au point de vue personnel, individuel, c'est le maximum de ce qu'ils peuvent espérer. Ce n'est pas que ce que tu dis n'est pas possible. Je pense qu'en effet, c'est possible. Mais c'est rare. Ce n'est pas fréquent. Ce serait que malgré leur travail d'élimination, ils ont conservé dans leur conscience quelque chose qui est capable de sentir que n'est pas entièrement satisfait. Ce n'est plus, n'est-ce pas, après l'identification, ce n'est plus la position, par exemple, du maître et du disciple, ou du Seigneur et de l'aspirant. Au moment de l'identification, ce rapport-là disparaît. Par conséquent, qu'est-ce qui reçoit la leçon? Ce serait seulement s'il y a un élément de conscience qui ne participe pas à cette identification parce qu'il a besoin d'une autre approche que celle qu'il a eue. Et tout dépendra de la perfection avec laquelle l'aspirant aura éliminé de son être tout ce qui n'est pas le chemin unique qu'il suit. Si on garde dormant dans sa conscience des éléments, par exemple, de dévotion ou d'amour, alors qu'on a suivi le chemin de la connaissance, eh bien, au moment de l'identification, il leur manquera quelque chose, et alors ils seront en état de comprendre que leur expérience n'est pas complète. Mais si on les a si bien éliminés qu'ils n'existent plus, alors qui est-ce qui s'apercevra que l'union n'est pas parfaite? L'union est parfaite en soi, sur ce point donné. C'est purement un phénomène de conscience. N'est-ce pas, encore dans ta pensée, il y a la chose que tu t'inies à quelque chose qui sait plus que toi et qui te fera connaître l'erreur dans laquelle tu t'es. Mais ça n'existe plus après l'identification. Ça, c'est juste le premier contact, mais pas l'identification. L'identification, il n'y a plus de différence entre ce qui s'identifie et ce à quoi il s'identifie. C'est la même chose. Tant qu'il y a une différence, ce n'est pas l'identification. Et moi, je parle qu'il est possible, par n'importe quel chemin, et en éliminant tout ce qui n'est pas ce chemin, qu'il est possible à chacun de s'identifier d'une façon parfaite avec le divin, c'est-à-dire de devenir le divin. Mais sur un point. Le point qu'il aura choisi. Mais ce point est parfait en lui. Je ne dis pas qu'il contient tout. Je dis qu'il est parfait en lui. C'est-à-dire l'identification est parfaite. Elle n'est pas totale.
Ils ont la pleine félicité.
Parfaite félicité. Parfaite félicité, l'éternité, l'infini et tout.
Alors, quelle différence?
La différence n'existe que dans la manifestation. Cette identification, c'est le, quelle qu'elle soit, on sort automatiquement de la manifestation, excepté sur le point sur lequel on s'est identifié. Et si dans le chemin que l'on a suivi, c'est la sortie, comme par exemple ceux qui cherchent le nirvana, n'est-ce pas? Si c'est la sortie de la manifestation, eh bien on sort de la manifestation, c'est fini. Et une fois qu'on sort de la manifestation, il n'y a plus aucune différence ni aucune hiérarchie. C'est fini, on est sorti de la manifestation. Mais est-ce que c'est ça, n'est-ce pas? Tout dépend du but que l'on poursuit. Si on sort de la manifestation, on sort de la manifestation. Alors il n'y a plus aucune possibilité de hiérarchie quelconque. Mais dès qu'on entre dans la manifestation, il y a une hiérarchie. C'est-à-dire, si nous prenons la réalisation du monde supramental, eh bien, tout le monde ne sera pas sur le même niveau, n'est-ce pas, et fait sur le même modèle, et avec la même capacité et la même possibilité. C'est-à-dire, c'est toujours cette illusion-là, n'est-ce pas, d'une sorte de répétition, hein, indéfini de quelque chose qui est toujours semblable à lui-même. Ce n'est pas ça. Dans la réalisation, dans la manifestation, il y a une hiérarchie de capacité et d'action et de manifestation. Mais si le but est de sortir de la manifestation, alors naturellement, tout naturellement, par n'importe quel point vous sortez, vous sortez. Tout dépend de l'idéal qu'on se propose. Et tandis que vous sortez, parce que vous avez choisi de sortir, de rentrer dans le pralaya, il y a tout le reste de l'univers qui continue. Mais ça vous est totalement indifférent, puisque votre but était d'en sortir. Vous en sortez. Mais ça ne fait pas que le reste en sort. Vous êtes seul à en sortir. Ou ceux qui ont suivi le même but et le même chemin que vous. c'est un problème. Qui s'était posé justement sur Bindo ici et à moi en France. Est-ce qu'il faut limiter son chemin et arriver au but? D'abord, et puis après prendre en main tout le reste et commencer le travail de transformation intégrale, ou faut-il aller progressivement en ne laissant rien de côté, en éliminant rien du chemin, en prenant toutes les possibilités en même temps et en progressant sur tous les points en même temps. C'est-à-dire, est-ce le retrait hors de la vie et de l'action jusqu'à ce qu'on soit arrivé à son but, c'est-à-dire à prendre conscience du supramental et à le réaliser en soi-même, ou est-ce qu'on embrasse toute la création et que c'est avec toute cette création qu'on avance progressivement vers le supramental. On peut concevoir que les choses se font par étapes, qu'on avance, on fait une étape, et puis alors on fait avancer comme conséquence tout le reste, et puis en même temps, d'un mouvement simultané, on fait une autre étape, et encore on fait avancer, et ainsi de suite. Ça donne l'impression qu'on n'avance pas. Mais tout est en marche comme ça. Voilà. question. Je voudrais bien qu'on ne retombe pas aux contingences. Si tu as compris ce que j'ai dit et que c'est là-dessus que tu veux poser une question, pose. Je viens de dire. Eh bien, il vaut mieux qu'on médite.